Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, Priorité santé est consacrée aux maladies négligées, maladies du sommeil, maladies de Chagas, leishmaniose, filariose lymphatique, ulcère de Buoli, des maladies qui affectent des millions de personnes. Recherche de nouveaux traitements, amélioration de la prise en charge et de la prévention, il reste difficile de mobiliser la communauté internationale sur cette question. Alors dans cette émission, nous irons au Burkina Faso, voir comment s'organise la lutte contre la filariose lymphatique. Et nous serons en direct des studios de l'Organisation mondiale de la santé à Genève avec le docteur Jean Janin, coordinateur au département de lutte contre les maladies tropicales négligées à l'OMS, et le docteur Bernard Pécoul, directeur du DNDi, cette initiative pour la lutte contre les maladies négligées. C'est une organisation de recherche scientifique à but non lucratif qui développe des médicaments pour lutter contre les maladies négligées qui affectent les populations les plus pauvres. Docteur Jean Janin et docteur Bernard Pécoul, bonjour. Docteur Jean Janin, quand on parle de maladies négligées, finalement, on parle de quoi précisément ?
Alors, je voudrais faire une petite correction pour commencer. En fait, on parle de maladies tropicales négligées. Je crois que c'est une distinction importante puisqu'on parle ici de maladies infectieuses principalement, souvent parasitaires et qui sont transmises par des vecteurs comme la mouche tsetse, comme les moustiques, etc. ou qui sont liées à l'eau et aux conditions d'hygiène. C'est donc une première approche pour dire que ces maladies tropicales négligées sont un grand symptôme de misère et d'inégalité. Donc, c'est des maladies qui, par leur nature et par leur vecteur, sont liées à la pauvreté. Et les plus grandes poches de pauvreté, évidemment, ainsi que le climat, sont présents dans les pays du Sud.
Et pour certains, il existe des traitements, pour d'autres, non ?
Il existe des traitements finalement pour la quasi-totalité de ces maladies. Le principal problème, c'est l'accès à ces traitements et aussi l'accès au diagnostic de ces maladies.
Nous allons donc, nous, d'abord parler de la filariose lymphatique avec un reportage au Burkina Faso. Filariose lymphatique affecte quelque 120 millions de personnes, dont 40 millions sont gravement handicapées ou défigurées. Elle provoque une hypertrophie de la jambe, du bras, des organes génitaux ou des seins, avec de graves incidences psychologiques et sociales. Alors comment s'organise la lutte contre ce fléau ? Comment les malades sont-ils pris en charge ? Igor Strauss a enquêté pour nous au Burkina Faso. Et le docteur Pierre Brantus nous explique tout d'abord ce qu'est cette maladie.
La filariose lymphatique est une maladie qui est causée par un parasite qui est transmis d'homme à homme par un moustique. L'âge d'infection est à peu près à l'âge de 5 ans, mais les manifestations cliniques apparaissent plutôt après 20 ans et sont essentiellement un lymphœdème des membres, c'est-à-dire un gonflement au niveau des jambes ou des bras. On voit des fois des photos avec des gens qui ont des grosses jambes ressemblant un peu à la jambe de l'éléphant, donc éléphantiasis, ça c'est donc la manifestation. Pour la deuxième manifestation, il s'agit, on va dire, de gros testicules. Et la manifestation essentielle est un hydrocèle, c'est-à-dire une collection de liquide au niveau du scrotum.
Et donc ça c'est dû à quoi ? C'est dû à ce parasite qui, 20 ans auparavant, a mis une larve.
Alors, le parasite, quand il rentre dans le corps, il est au stade de larve. Il va passer par un certain nombre de stades pour devenir un ver adulte qui peut mesurer pour la femelle à peu près une dizaine de centimètres. Et ce ver adulte va se localiser dans des ganglions lymphatiques, le système lymphatique dans le corps qui sert à évacuer les déchets produits par les activités des différents organes et des différents tissus. Et le fait de la présence de ces vers adultes dans les ganglions lymphatiques va entraîner un dysfonctionnement du système lymphatique. Et le fait que ce système lymphatique ne peut plus agir, il va y avoir un dépôt de liquide. Et donc, au fur et à mesure, la jambe va se mettre à gonfler. Ou au niveau du testicule, c'est un tout petit peu différent. C'est les vers adultes qui, en mourant dans les ganglions, vont provoquer une sorte de réaction inflammatoire qui va faire sécréter et produire du liquide dans le testicule qui peut malheureusement atteindre des fois des volumes très importants puisque moi-même j'ai vu des gros testicules qui peuvent faire à peu près une vingtaine de kilos. Le fait d'avoir ces grosses jambes et ces gros testicules, ces hydrocèles, empêche les gens de pouvoir vivre leur vie au quotidien, que ce soit dans la réalisation de leurs activités à la maison, de pouvoir travailler, pour les femmes qui ont des grosses jambes, de pouvoir se marier. Donc ça a un impact très très important sur leur qualité de vie.
Nous partons pour Dano, dans le sud-ouest du Burkina Faso, près de la frontière ivoirienne. C'est une région très pauvre, humide pour le pays, où la filariose est très répandue. Nous sommes au CSPS, le Centre de Santé et de Promotion Sociale de Dano. Là, 115 patients sont pris en charge. Syriac Débélé est marié, il a 4 enfants et il vient d'arriver. Son pied est très abîmé.
À ces temps-là, quand le pied m'a commencé, j'étais allé voir le médecin, mais ce n'était pas ici, c'était à la Côte d'Ivoire. Le pied n'était pas gonflé comme aujourd'hui. Mais à un moment donné, le pied m'a pourri totalement. Le pied était pourri jusqu'à toucher os. On m'a transporté, envoyé à l'hôpital de Gawa. J'ai fait 3 mois là-bas. C'est arrivé près de 2 mois comme ça, et puis je ne peux plus marcher même.
Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait à l'hôpital de Gawa alors?
Moi-même, je voulais qu'on coupe le pied totalement. Le médecin n'est pas d'accord avec moi.
Et pourquoi vous voulez couper le pied?
Parce que le pied était pourri. Le salon que j'ai dormi, personne ne peut venir là-bas. On ne peut plus mettre un autre malade. Ça sent trop.
Ça sent quoi? Ça sent mauvais?
Mauvais, sent mauvais, très mauvais. Puis le mouche noir même rentre dedans. On dirait que je suis mort, cadavre. Donc c'est pourquoi moi je voulais qu'on coupe. Donc le médecin n'est pas d'accord avec moi. Il dit qu'on ne peut pas couper. Et puis on m'a commencé à soigner. Jusqu'à ça, le pied l'a fini. Et puis ça devient comme ça.
Et là aujourd'hui ça va mieux?
Aujourd'hui, c'est mieux. En tout cas, il n'y a plus de plaies. Mais le pied, il me dérange beaucoup dans mon travail.
Vous faites quoi comme travail?
Moi, je suis un cultivateur. Mais ça me gêne. Surtout, si la pluie me tape un peu, ça commence le cri. C'est pourquoi moi, je ne sors pas dans la pluie. Je ne sors même pas dans la pluie. Si j'ai vu la pluie commencer à préparer, il faut que je coure à la maison.
Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait, la pluie?
Ça me fait mal. Ça garde beaucoup de choses chez moi. Je ne peux plus sortir, aller quelque part. Même avant, je peux pédaler au vélo, même faire jusqu'à Djibougou. Mais aujourd'hui, là, je ne peux plus pédaler au vélo très fort. D'après, même ce qui me gêne beaucoup, les gens me crient de moi. Ils se moquent de moi à cause de ça.
Ils vous disent quoi?
On me dit comme je suis gros pied, quoi. Un jour même, si j'allais chercher une fille, il m'a refusé parce que je suis gros pied. C'est ça qui me gêne dans ma vie. Voilà.
Quand le pied a commencé, qu'est-ce que vous êtes dit?
Quand le pied m'a commencé là, les gens, il y a d'autres qui me disent que moi je n'ai pas dit que c'est quelqu'un qui m'a donné cette maladie. Il y a d'autres qui disent que c'est Kayima, maladie de Kayima qui m'a attaqué. Il y a d'autres qui disent que c'est le pied d'éléphant. Les gens me parlent de ça.
Et pourquoi le caïman? Qu'est-ce que le caïman a à voir là-dedans?
Les gens disent que c'est notre coutume, qu'on ne mange pas caïman. Comme on était jeune, on a tué ça, on mangeait ça.
Vous avez mangé du caïman?
Oui.
Et vous avez pensé que...
C'est ça que tu as envoyé, cette maladie. Même aujourd'hui, j'ai pensé ça. C'est ce caïman qui m'a attrapé.
Mais aujourd'hui, vous savez ce que c'est ou pas?
Je sais que c'est une autre maladie. C'est pourquoi je suis venu pour regarder comment on peut faire le traitement de cette maladie pour que ça diminue le cri. C'est à cause de ça que je suis venu aujourd'hui.
Igor Strauss, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi cette histoire de caïman?
Dans le cas de ce patient, ça relève des croyances, hein, clairement. Il n'a pas la filariose parce qu'il a mangé du caïman, c'est évident. En revanche, lorsqu'un patient a la filariose, il peut dans certains cas avoir la peau tellement dure qu'on la compare à celle du caïman. Et en fait, ça s'explique clair par le fait que la maladie peut provoquer des démangeaisons extrêmement fortes. Les patients se grattent jusqu'au sang et leur peau devient dure. Alors on parle d'éléphantiasis car les jambes ressemblent à celles d'un éléphant. Et bien, de la même manière, on peut faire une comparaison avec la peau d'un caïman. On imagine donc c'est de là qu'est venue cette croyance, au fait.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, nous parlons des maladies tropicales négligées. Igor Strauss, vous êtes allé au Burkina Faso pour voir comment s'organise la lutte contre la filariose lymphatique. Comment est figuré ce centre de santé de Dano, qui est donc dans le sud-ouest du Burkina Faso, Igor?
C'est un petit centre de santé, tout ce qu'il y a de plus rudimentaire. Il y a quand même un bloc opératoire, puisqu'on peut opérer les patients qui ont des hydrocèles, des gros testicules. Alors, les réunions se font dans la cour, sous un arbre, une fois par mois. Chaque réunion commence par l'appel pour assurer le suivi. Si une personne n'est pas là, les infirmiers se renseignent, tentent de connaître la raison de cette absence. Il y a également des visites à domicile pour les patients qui ne peuvent pas se déplacer en raison des crises. Et puis, il y a la prise en charge des nouveaux arrivants, comme le monsieur qu'on vient d'entendre tout à l'heure.
Et le point important dans cette prise en charge, c'est le lavage des jambes. Yangé Honoré est infirmier d'État. Il est responsable de la formation sanitaire au CSPS, le Centre de Santé et de Promotion Sociale de Dano.
L'année-elle. Balais banois. C'est elle est en phase de crise présentement. Donc, c'est dit à l'issue de l'entretien, il faut que je lui trouve quelque chose pour soulager sa douleur.
Qu'est-ce que vous appelez les crises?
La douleur vient de temps en temps, surtout à cette période de fraîcheur. C'est un facteur pour déclencher la crise.
Donc là, dans tout le groupe de personnes qui est réuni ici aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes. Comment expliquer que le nombre de femmes soit beaucoup plus important?
L'homme préfère supporter sa maladie à la maison que de venir au CSPS. Par contre, les femmes sont beaucoup plus sensibles. Elles acceptent quand même venir dans les formations sanitaires avec leur mal. Voilà, les hommes ont beaucoup plus peur de la stigmatisation. Présentement, nous allons faire la démonstration du washing.
Donc là, vous sortez les seaux?
C'est pour aller chercher l'eau, ouais. Puisque le washing se passe avec un seau, une bassine, un savon, un gobelet, une serviette et de la pommade.
C'est une pommade pour quoi?
C'est une pommade antibiotique contre les mycoses. Voilà. Alors, il y a déjà une volontaire pour faire la démonstration aux autres.
D'accord.
Alors, donc, c'est dit qu'elle a été formée. Elle se propose volontaire de faire la démonstration aux autres malades. Dans le cadre de la filariose lymphatique, la technique de laver est très particulière, puisqu'il faut commencer de haut en bas. Si vous commencez de haut, la saleté descend jusqu'en bas. Donc, si vous arrivez au niveau de la plante du pied, en ce moment, tout est fini.
Donc là, effectivement, il y a une dame qui s'assoit sur son banc,
oui,
qui a la jambe allongée le long d'un autre banc. Et puis, madame va faire donc la démonstration.
Voilà.
Donc voilà, là, c'est terminé. La dame a le pied propre.
Alors, le pied est bien propre, ce n'est pas fini. Puisque, on ne peut pas laver le pied et puis marcher toujours. Nous avons des cordonniers qui ont été formés par Handicap International pour la confection de chaussures spéciales pour les malades de la filariose lymphatique.
Là, je regarde autour de moi,
oui,
les dames et les messieurs, ils ont tous des tongs où ils sont pieds nus.
Oui, mais ils ont des chaussures qui ne sont pas adaptées à leurs pieds. C'est pour cela que nous avons trouvé un cordonnier qui donne des chaussures qui sont adaptées à leurs pieds. Puisque l'infodème, il ne faut pas porter des chaussures qui sont trop serrées. Si c'est trop serré, ça augmente les crises.
Ça vous a fait du bien, le lavage?
Beaucoup de bien. Je ne sens plus la douleur comme avant. Avant, je pouvais faire 2 mois et puis je tombe malade. Bon, je souffre beaucoup, mais avec les lavages et puis les produits qu'on nous donne, ça m'a beaucoup soulagée.
Et là, ça fait longtemps que vous participez à ces rencontres et à ce suivi?
Oui, c'est depuis 2006.
Et avant, quand vous ne veniez pas au suivi, est-ce que vous vous laviez le pied régulièrement ou est-ce que vous ne saviez pas qu'il fallait se laver pour diminuer la douleur?
Non, on ne savait pas qu'il fallait laver le pied et puis pour diminuer. Donc c'est tout simplement quand je me douchais que je lavais le pied, comme d'habitude. Mais présentement que je suis, il faut au moins laver 3 fois par jour.
Et vous, ça fait combien de temps que vous avez la filariose lymphatique?
Depuis 68, quand j'étais au CME1.
Et à l'époque, en 1968, vous saviez ce que c'était?
Non. Puis c'est ma maman avait les 2 pieds pareils. Donc je me suis dit que j'ai hérité de la maman, quoi. Moi, j'ai ramassé ça avec la maman.
Alors dans votre famille, il y a votre belle-sœur qui a la filariose lymphatique également. Est-ce que dans le village, il y en a beaucoup aussi?
Il y en a plein même. Il y a plus de 10. Ma cousine aussi a ça. Elle est là. On dirait même que c'est dans notre village même que on a déposé ce mal-là. Il y en a trop même.
Igor Strauss, c'est bien de conseiller de mettre des chaussures fermées, mais ça coûte cher, on imagine.
Mais oui, ça coûte 500 francs CFA. Alors, c'est un tarif négocié par Handicap International avec les coordonnées de la ville. Ça peut ne pas paraître beaucoup, ça fait moins d'un euro. Mais la filariose lymphatique, là, on le rappelle, est une maladie de la pauvreté. Les patients sont généralement démunis et 500 francs, bah, ce n'est
CFA,
pas simple à trouver.
C'est pas simple à trouver. En quoi consiste le traitement, concrètement?
Alors, déjà, au Burkina Faso, la maladie est endémique. Hein, il y a 14 millions d'habitants et tous sont susceptibles de contracter la maladie. Pourtant, il suffit de prendre deux médicaments une fois par an pendant 6 ans pour stopper la transmission de la maladie. Ces deux médicaments sont l'ivermectine et l'albendazole. Alors il faut les prendre pendant 6 ans car ils n'agissent que sur les microfilaires, les petits vers, et pas sur les vers adultes qui provoquent les crises et donc la maladie. Et comme la durée de ces vers est de 6 ans, eh bien, si on prend les médicaments pendant ces 6 ans, on empêche les vers adultes en fait, de se reproduire pendant toute leur existence dans le corps humain. Alors si au moins 65% des habitants d'un village, d'une ville ou mieux d'un pays prennent ces médicaments une fois par an pendant 6 ans, eh bien le risque de transmission de la maladie devient nul. Les médicaments sont gratuits pour les patients. Ils sont même fournis gratuitement par le fabricant qui se charge de les livrer à Ouagadougou. Après, c'est au gouvernement de redistribuer ces médicaments dans l'ensemble du pays.
Par contre, Igor, il n'y a pas de traitement contre les grosses jambes.
Non, dès qu'on a une grosse jambe, c'est pour la vie. On peut juste prévenir les infections et éviter que cette jambe ne grossisse davantage en pratiquant le washing, le lavage, 3 fois par jour.
Le Burkina Faso a lancé un programme national d'élimination de la filariose. Roland Bougma en est le responsable et il constate un manque de moyens pour combattre cette maladie.
L'insuffisance des ressources nous ont conduit à mettre l'accent sur le volet interruption de la transmission. Pour ce qui concerne le volet prise en charge des cas, nous le mettons en œuvre grâce à l'appui uniquement des partenaires.
Comme Handicap International.
Mais avec cet appui, ils n'arrivent même pas à absorber tous les malades de ces régions.
Quelle date limite est-ce que vous vous êtes fixé pour éradiquer réellement la maladie?
Nous nous sommes fixés pour l'objectif d'interrompre la transmission en 2015. C'est ça l'objectif du programme.
Mais est-ce que c'est vraiment réalisable?
C'est tout à fait réalisable parce que les résultats que nous avons actuellement au niveau de nos sites montrent que la baisse au niveau de la prévalence microfilarienne est très sensible. Nous avons enregistré plusieurs sites qui sont déjà à moins de 1%. Au contraire, c'est les districts où nous n'avons pas encore démarré la prise en charge nous disent que ces malades-là leur demandent quand est-ce que la prise en charge va commencer. Donc ça veut dire que la demande a commencé à s'exprimer. Maintenant, c'est nous qui n'arrivons pas à suivre parce que nous n'avons pas suffisamment de ressources. Et il y a d'autres études qui ont été faites ailleurs et qui montrent que pour $1 investi, on récupère $15. Donc, la stratégie mondiale qui a été arrêtée, c'est basé sur ces aspects économiques et la possibilité, les progrès scientifiques qui ont été réalisés, qui ont convaincu les décideurs au niveau mondial et bien sûr au niveau de notre pays à opter pour cette stratégie qui permet de lutter contre la pauvreté.
Mais Igor Strauss, comment expliquer ces problèmes de moyens alors que les médicaments sont gratuits?
Un des problèmes rencontrés, c'est l'acheminement des médicaments dans l'ensemble du pays. Ça coûte très cher et il n'y a pas assez de véhicules. Alors chaque année, l'État met 200 millions de francs CFA, soit 300 000 euros dans la lutte contre la maladie, mais ça n'est pas suffisant. Et il y a aussi, clair, le problème dû à la nature de la maladie elle-même. C'est une maladie honteuse, donc les gens se cachent, ils ne sont pas pris en charge et surtout, ils ne sont pas visibles aux yeux des décideurs qui pourraient investir davantage si tous les malades étaient recensés. C'est donc un cercle vicieux, en fait.
Igor Strauss, merci pour ce reportage sur la filariose lymphatique au Burkina Faso. Docteur Jean Janin et docteur Bernard Pécoul, on se retrouve après les informations, toujours pour parler de la lutte contre les maladies tropicales négligées.
Priorité Santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, je reçois le docteur Jean Janin, coordinateur du département de lutte contre les maladies tropicales négligées à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et le docteur Bernard Pécoul, directeur du DNDi, l'initiative pour la lutte contre les maladies négligées. Nous aurons également au téléphone le docteur Candé, qui est directeur du programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine en République démocratique du Congo. Docteur Janin, on vient d'entendre le reportage d'Igor Strauss au Burkina Faso sur la lutte contre la filariose lymphatique. On comprend bien, on manque encore de moyens sur ces maladies qu'on sait traiter finalement.
Oui, ce reportage est intéressant parce qu'il illustre un certain nombre de choses très très rapidement. La première chose qui est parfaitement illustrée, c'est le cortège de difficultés qui accompagnent ces maladies, en particulier le problème des infirmités, la discrimination, la stigmatisation, les difficultés sociales. Donc c'est quelque chose de très important. La deuxième chose qu'on peut retenir, c'est que fondamentalement, il est très très important de pouvoir prévenir ces maladies, car on se rend bien compte que lorsque les lésions sont constituées, la prise en charge devient très difficile. En deux mots, au sujet du Burkina Faso, je crois important de souligner que c'est le premier pays d'Afrique, finalement, en termes de couverture contre ces maladies avec les médicaments dont vous parliez. Et il existe un programme intégré qui vise à prévenir non seulement la filariose lymphatique, mais la bilharziose, les vers intestinaux et l'oncocercose. Donc je crois qu'il faut saluer les efforts du Burkina Faso. Et enfin, la dernière remarque, c'est que ça illustre, et ça c'est vrai pour toutes les autres maladies, le difficile problème de l'accès aux soins pour ces populations qui vivent dans des régions assez éloignées et pour lesquelles les coûts de prise en charge de la maladie restent élevés, même si les médicaments sont gratuits.
Entre autres, les coûts de déplacement. Docteur Pécoul, votre réaction également ?
Mais écoutez, je crois que c'est l'exemple d'un programme qui peut marcher et qui est extrêmement intéressant, notamment sur l'aspect préventif, parce que l'avantage dans cette maladie aujourd'hui, c'est qu'il y a une combinaison de deux traitements qui permet de prévenir cette maladie de manière très efficace. Le deuxième point que j'aurais faire, c'est que le reportage illustre très bien comment les équipes soignantes sont motivées en périphérie. Et ça, je pense que mes nombreuses visites sur de nombreux terrains ont confirmé cet aspect. Je crois que lorsqu'on a des outils adaptés, on trouve des équipes et des partenaires sur le terrain extrêmement motivés pour les mettre en place.
Alors, docteur Pécoul, ça fait un moment que vous intéressez à ces maladies tropicales négligées. Vous avez fait partie de la création de ce DNDi. Quel est son rôle exact? Qu'est-ce que vous faites concrètement?
Alors, le DNDi est vraiment une institution de recherche et de développement, donc dont le but est de développer des nouveaux traitements pour ces maladies négligées, des nouveaux traitements qui sont adaptés aux conditions de terrain. Donc, dans nos objectifs, il ne s'agit pas non seulement de faire de la science et d'amener des produits nouveaux, mais il faut qu'ils soient en plus complètement adaptés à l'utilisation dans les villages, comme on vient de le décrire. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient simples d'utilisation, si possible pas liés à une chaîne de froid, et si possible des traitements par la bouche, des traitements oraux qui sont beaucoup plus faciles à administrer. Donc, c'est tous ces critères qu'on met autour de la table. Et pour atteindre de tels objectifs, donc on fait travailler des partenaires privés, donc des industries pharmaceutiques, qu'elles soient grandes ou petites, avec des instituts de recherche académique qui mettent leur capacité, leur intelligence ensemble pour développer ces nouveaux produits.
Alors, vous avez déjà obtenu des résultats. Quels sont-ils? Je dirais, quels sont les nouveaux médicaments que vous avez réussi à produire?
Alors, jusqu'à présent, nous avons développé deux médicaments pour le paludisme qui sont des combinaisons thérapeutiques associant les dérivés d'artémisinine avec des traitements plus traditionnels, donc la modiaquine d'un côté et la méfloquine de l'autre. Donc, c'est des traitements qui simplifient la prise en charge du paludisme. Bon, nous avons complété des études dans le domaine de la maladie du sommeil, des études cliniques. Là, nous en sommes au stade de présenter l'ensemble des résultats à l'Organisation mondiale de la santé et aux partenaires nationaux, en espérant que prochainement ces nouveaux traitements pourront être mis en œuvre. Et enfin, le quatrième élément qui est le plus important pour l'avenir, c'est que nous avons construit un portefeuille de recherche. Ce qu'aujourd'hui, pour les maladies que nous avons identifiées comme prioritaires avec nos partenaires, nous avons fait rentrer des projets à un stade précoce parfois ou à un stade avancé de développement clinique afin de préparer l'avenir, donc afin d'avoir des succès dans les prochaines années.
Ça veut dire quoi concrètement justement ce portefeuille de recherche ?
Alors le portefeuille de recherche, il faut savoir que quand on part d'une idée scientifique au début dans un laboratoire, on est très enthousiaste, mais il nous faut une centaine de bonnes idées.
Un peu de temps avant d'arriver au médicament, c'est ça ?
Voilà, il nous faut une centaine de bonnes idées avant d'arriver à un bon médicament. Donc il y a ce qu'on appelle un taux d'échec qui est complètement normal dans ce type d'activité. Donc il faut sélectionner les projets, passer par différentes étapes. Au début, c'est purement en laboratoire. Après, c'est chez l'animal. Et enfin, lorsqu'on a un candidat, on le teste chez l'homme et chez le malade pour prouver qu'il est efficace et puis bien toléré. Parce qu'il faut aussi s'assurer que lorsqu'on donne un médicament, on ne produit pas d'effets secondaires qui peuvent se retourner contre l'intérêt du malade.
Docteur Pécoul, vous avez insisté sur le coût des médicaments. Une partie de vos recherches se concentre sur le fait d'essayer de trouver des médicaments qui ne sont pas chers. Comment faites-vous pour ça ?
Alors, ça fait partie vraiment de nos critères aussi, notre cahier des charges, si je peux dire, dès le départ. Hein. On choisit, dans le choix des molécules que l'on développe, on choisit des molécules qui ne seront pas chères à la fin au niveau de la production. Donc, ça, c'est un élément. Et deuxième élément, c'est qu'en signant des accords avec nos partenaires, et notamment les partenaires industriels, nous nous assurons qu'ils vont mettre ces médicaments à disposition à des prix raisonnables. Donc, généralement, à prix coûtant, éventuellement avec une petite marge bénéficiaire, mais en tout cas, ce n'est pas sur ces médicaments qui peuvent faire des bénéfices, puisque la population cible que nous avons dans nos maladies, c'est une population pauvre, une population qui ne peut pas payer ces traitements. Donc nous avons affaire à une prise en charge essentiellement dans le secteur soit public, soit dans le secteur caritatif avec l'aide d'ONG.
Et ces médicaments, si je ne me trompe, sortent sans brevet, c'est-à-dire sans protection. Est-ce que c'est ça aussi qui permet qu'ils soient moins chers ?
Alors, bien entendu, en tout cas pour les médicaments dans le domaine du paludisme, c'était important que ces médicaments sortent sans brevet afin qu'ils puissent être fabriqués en grande échelle et qu'il puisse y avoir d'autres producteurs qui puissent, si je peux dire, copier cette molécule et la mettre à disposition du plus grand nombre. Lorsqu'on a affaire aux populations les plus négligées, à des groupes plus spécifiques, probablement là, le cas sera un petit peu différent parce que ce qu'il faudra s'assurer, c'est qu'il y ait réellement un producteur qui maintienne sur le long terme, sur la durée, la production de ces médicaments. On est tout à fait en dehors du marché. Dans les maladies les plus négligées, on se situe complètement à l'extérieur du marché classique pharmaceutique. Donc il faut se trouver des solutions adaptées et des partenaires motivés.
Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous parlons de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Docteur Jean Janin, vous êtes coordinateur du département de lutte contre les maladies tropicales négligées à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Que fait justement concrètement l'OMS dans ce domaine ?
De façon très concrète, je crois que la première chose, ça a été avec tous les partenaires et les pays, bien évidemment, de définir des stratégies pour lutter contre ces maladies. En deux mots, il y a deux grandes stratégies, si vous voulez. La première concerne ces maladies dont on parlait au Burkina Faso, qui sont des maladies qui sont que l'on peut éventuellement prévenir grâce à des distributions de masse de médicaments qui ne seront pas chers et qui n'ont pas d'effet indésirable. Donc le problème se situe à ce moment-là pour définir des stratégies de distribution massive tout autour du monde. Rappelons-nous qu'il y a plus d'un milliard de personnes qui sont concernées par ces maladies. Puis un deuxième groupe de maladies qui sont les maladies qui sont les plus dangereuses, qui tuent, comme la maladie du sommeil, la leishmaniose, pour lesquelles les traitements sont totalement inadaptés, c'est ces fameux traitements dont le docteur Pécoul parlait, et pour lesquels il faut maintenir un accès aux structures de santé et aux soins pour ces populations-là.
Alors justement, docteur Janin, on va parler plus précisément de cette maladie du sommeil. C'est quoi exactement ?
La maladie du sommeil, c'est une parasitose donc, qui est transmise par cette fameuse mouche tsetse que tout le monde connaît bien. Donc en gros, dans un premier temps, le parasite se développe d'une façon assez classique. Et puis après un certain temps, disons un an ou deux, le parasite passe dans le système nerveux, dans le cerveau, et provoque à ce moment-là des troubles extrêmement graves qui conduisent inéluctablement à la mort si la maladie n'est pas traitée.
Alors, nous avons justement maintenant au téléphone le docteur Victor Candé, qui est directeur du programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine en République démocratique du Congo. Docteur Candé, bonjour.
Bonjour, madame.
Cette maladie est-elle tout d'abord fréquente ?
Facilement fréquente, elle est permanente, parce que c'est une maladie endémique. Notre pays est parmi les pays les plus atteints.
Et la population donc connaît bien cette maladie ?
La population connaît la maladie et les efforts que nous faisons, c'est pour que la majorité de la population qui vit dans ce milieu endémique la connaisse effectivement. Ce sont les efforts que nous ajoutons.
Et quels sont les traitements ?
C'est comme j'en ai parlé tout à l'heure, là, ça dépend du stade de la maladie. Lorsque la maladie est au premier stade, c'est-à-dire que les parasites sont dans le lymphe et dans le sang, on appelle ça premier stade. Pour la trypanosomiase à Gambien, c'est chez nous, et à RDC, nous utilisons la pentamidine. C'est pour ceux qui ont la rhodésiense, ils utilisent les suramines. Lorsque le système nerveux central est atteint, alors c'est ça la forme la plus compliquée. Nous avions un médicament à base d'arsenic, qui est le Melarsoprol, avec toutes ses conséquences. Et le deuxième que nous recommandions, c'était le Defmon, l'eflornithine. Et actuellement, avec les études qui se font, nous espérons que lorsque nous aurons l'assentiment de l'OMS, nous ferons appel à la combinaison Nifitimox et eflornithine.
Sur lequel travaille justement le DNDI, c'est ça, hein, docteur Bernard Pécoul?
Oui, oui, d'ailleurs en étroite collaboration avec le docteur Candé, parce que c'est l'acteur principal, puisque la plupart des études se sont déroulées en République démocratique du Congo, en appui au programme national. Donc c'est un effort qui a vraiment été mené conjointement avec les partenaires nationaux et l'OMS.
Docteur Candé, justement concrètement, en quoi consiste ce programme national de lutte contre cette maladie du sommeil ?
Comme la maladie est endémique dans notre pays, que le système de santé était vraiment en défectuosité, il a plu aux autorités politiques de créer le programme national pour s'occuper spécialement de cette maladie, de la lutte contre la trypanosomiase. Et consiste d'abord à organiser cette lutte sur toute l'étendue de la République. C'est-à-dire, nous avons essayé de mettre sur pied, adapter les stratégies qui sont recommandées par l'OMS pour voir comment les appliquer dans nos milieux. Et la plupart, ce sont les milieux ruraux. Et avec la particularité que les gens viennent rarement d'eux-mêmes, il faut aller les chercher dans leur milieu, dans le village, là où ils sont. Il faut une stratégie mobile. Deuxièmement, il faut les normes pour que les partenaires ou les structures qui sont impliquées là-dedans respectent. Et de tout ça, nous avons pu mettre sur pied la politique nationale, parce que rien ne peut se faire sans qu'il y ait une politique cohérente dans la lutte contre la maladie du sommeil. Et c'est cette politique qui définit les orientations, les stratégies, tous les intrants nécessaires qui sont dedans. Et dans les endroits où les structures de santé sont vraiment défaillantes, nous sommes obligés d'en créer et de les équiper et fournir tous les intrants nécessaires. Et lorsque les malades sont détectés, il faut les soigner. Et c'est là aussi, comme c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme l'a dit Jean-Genet, nous fournit le médicament et nous devons les dispatcher, les distribuer dans toutes ces structures. En fait, nous avons les équipes spécialisées, nous devons assurer la supervision, voir comment le travail s'est fait sur le terrain. En gros, c'est ça le travail que nous faisons. Et aussi, l'aspect qui est le plus important, c'est la surveillance épidémiologique. Parce que il y a de médicaments comme l'arsobal qui devient résistant. Nous ne parlons rechute dans certaines provinces. Jusqu'à 40% des malades ou 50% traités avec l'arsobal reviennent parce que le médicament n'a pas réussi.
Et on imagine bien dans tout ça d'ailleurs que vous manquez de personnel soignant. Docteur Jeannin, ça c'est un des gros problèmes dans ces pays-là. C'est finalement, je dirais, le développement de ces maladies négligées est très lié à la déstructuration des systèmes de santé.
Oui, bien évidemment. Je crois que pour replacer un petit peu les choses, il faut repartir du début. C'est qu'on parle donc de maladies qui surviennent dans les régions les plus pauvres, souvent les plus éloignées. Donc, il faut replacer ça dans le contexte de l'accès aux soins. La première chose, c'est qu'il faut absolument que les patients puissent avoir une structure à laquelle s'adresser, ou comme le disait le docteur Candé, des équipes mobiles éventuellement, si le début de la maladie est asymptomatique. Une fois qu'ils sont arrivés dans une structure, il faut que le diagnostic puisse être fait, ce qui n'est pas simple. Et là aussi, on a besoin de personnel compétent. Et enfin, une fois que les malades sont diagnostiqués, il faut pouvoir les traiter. Donc on se rend compte au travers de ça que le fait d'avoir de nouveaux médicaments, c'est quelque chose d'absolument fondamental, bien sûr, mais ça n'est pas suffisant à la sortie pour faire une stratégie efficace, puisqu'il faut absolument, avant de traiter quelqu'un, l'avoir identifié en amont.
Et docteur Candé, on l'a bien compris, hein, votre grand espoir, c'est l'arrivée de ce nouveau traitement.
Parfait, c'est vraiment un grand espoir, parce que d'abord, il résout le problème de résistance qu'offrait déjà l'arsobal avec ses multiples complications. Vous savez, l'arsobal, c'est un médicament à base d'arsenic. De deux, il y a une composante qui est prise par la bouche, hein, féroce. Vous voyez, c'est plus facile que des infusions ou des injections. Et la troisième partie, c'est l'éphronutine qui sera donnée en peu de temps, hein, au lieu de 14 jours comme le faisons actuellement. Ce sera raccourci en 7 jours et avec 2 infusions par jour. Vraiment, c'est vraiment attendu, une solution pour nous.
Docteur Victor Candé, merci. Je rappelle donc que vous êtes directeur du programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine en République démocratique du Congo.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, je reçois le docteur Jean Jeannin, coordinateur au département de lutte contre les maladies tropicales négligées à l'OMS, et le docteur Bernard Pécoul, directeur du DNDI, l'initiative pour la lutte contre les maladies négligées. Docteur Pécoul, est-ce que vous avez du mal à mobiliser sur cette question, à trouver les financements nécessaires ?
Bien entendu, puisque je crois que nous sommes, nous l'avons parlé depuis 40 minutes, maintenant nous sommes sur un terrain négligé, abandonné, nous essayons d'apporter une solution aux plus pauvres parmi les pauvres, et donc nous sommes souvent en dehors des priorités qui ont été fixées par les grands donateurs, nous ne sommes pas visibles, puisque ces maladies, on en parle beaucoup moins souvent que des maladies comme le sida, comme la tuberculose, comme le paludisme. Donc il y a une grosse difficulté pour attirer des financements, et surtout des financements pérennes, donc des financements durables. Or, les objectifs que nous sommes fixés, c'est-à-dire amener des médicaments nouveaux, adaptés aux populations, ça nécessite un investissement sur la durée. Alors, c'est sûr que aujourd'hui, on a pu attirer un premier groupe de partenaires autour de DNDI, mais l'enjeu, c'est de les sécuriser, ceux qui sont venus, et d'attirer des nouveaux candidats.
Docteur Jean Jeannin, pour vous, c'est extraordinaire, finalement, l'arrivée d'une DNDI. Ça vous aide énormément dans votre travail à l'OMS ?
Je crois que c'est quelque chose de très, très important. C'est une aventure qu'on suit depuis bien longtemps. Je crois surtout que ça contribue énormément à offrir de nouvelles possibilités pour la recherche pharmaceutique. Et surtout, ça a permis de mettre sous la lumière ce problème du traitement de ces maladies. Car il est vrai que depuis un certain nombre d'années, un certain nombre des médicaments qui existaient nous sont donnés gratuitement à l'OMS, donc on les redistribue dans les pays. Ça, c'était quelque chose de très important. Par contre, la recherche sur les nouvelles molécules était en panne. Et je crois que la création du DNDi en particulier a permis de faire réémerger cette capacité à développer et à innover dans ce secteur.
Docteur Jana, est-ce que ça vous paraît aussi important que ces nouveaux traitements sortent sans brevet ?
Je crois que Bernard Pécoul l'a souligné tout à l'heure, on travaille sur des maladies pour lesquelles il n'y a pas de marché. Et je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental. Si on parle de la maladie du sommeil, si on parle de Hashimoto, si on parle d'un certain nombre de ces maladies, de toute façon, les marchés n'existent pas. Et 90 à 95% des patients concernés ne peuvent absolument pas, de toute façon, acheter ces médicaments. Donc, je crois que ce problème de brevet s'applique probablement un petit peu moins, ou beaucoup moins en tout cas, sur ces maladies tropicales négligées, ce qui est totalement différent de certaines autres maladies qui ont une diffusion mondiale.
Et docteur Pécoul, juste une dernière question à propos de ces brevets. Est-ce que ça ne peut pas montrer aussi qu'on peut quand même sortir de nouveaux traitements sans brevet ?
Mais écoutez, je crois que sur ce problème de brevet, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui reste très important, c'est pour pouvoir réussir la recherche, il faut qu'on ait accès aux découvertes. Donc, l'accès à la propriété intellectuelle, donc ce qui est protégé par des brevets, ça c'est très important pour la réussite de DNDi. Il faut qu'on puisse avoir accès à des molécules qui ont été développées pour d'autres maladies, qui ont été développées par d'autres partenaires, mais qui pourraient être très utiles pour ces maladies. Et notamment pour arriver aux médicaments adaptés que l'on souhaite. Pour la maladie du sommeil, bien entendu, ce que l'on souhaiterait amener aux équipes de Jean Janin, aux équipes de Victor Candé, c'est au final un traitement par la bouche, un traitement oral qui dure moins d'une semaine, qui puisse être adapté vraiment à l'utilisation au niveau du village, là où les gens sont atteints, quoi. Et pour atteindre ça, il nous faut avoir accès à toute la science. Et cette science, parfois, elle est protégée par propriété intellectuelle. Donc aujourd'hui, nous négocions avec pas mal de partenaires pour avoir accès à ces aspects-là. Et c'est là où le brevet a encore un rôle à jouer dans ce contexte des maladies négligées.
Et peut encore parfois être un frein. Comment se passe ce dialogue avec l'industrie pharmaceutique ?
Alors, je crois que la situation a beaucoup changé. Au cours de ces dernières années, le fait d'avoir montré ces problèmes, mis en évidence ces difficultés, ça nous a permis d'ouvrir les portes et d'ouvrir le dialogue avec des partenaires industriels. Alors, ce n'est pas encore parfait. Certains se sont engagés. Certains ont aujourd'hui accepté de prendre des risques. D'autres ont besoin encore d'être convaincus. Bon, c'est complètement ce que fait DNDi. Nous dialoguons beaucoup, nous négocions beaucoup, nous passons beaucoup de temps à expliquer notre vision, mais aussi les besoins des gens. Et bon, certaines fois, nous réussissons à convaincre et des produits sont mis à notre disposition, des expertises sont mises à notre disposition et des partenariats sont signés avec des grandes compagnies pour mettre les produits au service des populations à la fin du chemin.
Et ce nouveau traitement contre la maladie du sommeil, dont parlait le docteur Candé, qui a l'air de fonctionner bien, quand est-ce qu'il va être vraiment sur le marché ? Parce que le docteur Candé, en fait, a participé en République démocratique du Congo à des essais. On n'en était qu'à la phase d'essai. Quand est-ce qu'il sera disponible ?
Alors, on a bon espoir que ce soit dans quelques mois, puisque toutes les données ont été rassemblées, ont été présentées. Donc, on est vraiment au stade de la validation et tout est prêt. Alors là, c'est vraiment une collaboration étroite avec les trois partenaires que vous interrogez. Tout est prêt chez l'OMS, tout est prêt dans les programmes nationaux pour le mettre en œuvre. Donc, j'espère qu'on pourra annoncer quelque chose de très bientôt et que en plus, la mise en œuvre se fera assez vite. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans le passé de succès qui n'ont pas su se traduire en choses concrètes, en amélioration pour les populations. Donc là, on a essayé d'anticiper avec les différents partenaires. Donc on espère réussir cette traduction.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut que ce médicament soit très rapidement disponible dans les pays qui en ont besoin. C'est ça que vous voulez dire dans le rapidement.
Il faut qu'il soit disponible, il faut que les gens soient formés, il faut que la logistique suive, il faut que les guides pratiques soient là. Donc il y a toute une série d'étapes à franchir, mais nous y sommes préparés en coordination. Et nous espérons y arriver prochainement.
Et docteur Pécoul, sur quoi vous travaillez maintenant ? Quelles sont les autres recherches que vous menez ?
Alors, nous avons des recherches dans chacune des maladies, mais si je reste sur la maladie du sommeil, là, nous sommes en train de commencer à tester chez l'homme un nouveau médicament qui est, alors là, qui remplit les caractéristiques que nous souhaitons, parce que c'est un médicament par voie orale qui semble très efficace. Alors, on est au début de la recherche clinique, donc bien sûr, il y a encore des possibilités d'échec, mais là, il y a un projet extrêmement prometteur qui est en train de se mettre en œuvre, et nous espérons pouvoir le tester chez des malades en République démocratique du Congo dès l'année prochaine.
Et sur les autres maladies tropicales négligées ?
Alors sur les autres maladies, comme la leishmaniose viscérale, donc on a une stratégie un petit peu similaire, c'est-à-dire qu'on essaie d'améliorer l'existant, et notamment à travers des combinaisons de traitements existants, afin de simplifier la prise en charge. Ça, c'est la vision à court terme, donc améliorer l'existant. Et en parallèle, nous amenons des nouveaux produits, des nouvelles molécules, dans le portefeuille, au stade de l'animal d'abord, et ensuite du test chez l'homme. Donc nous espérons aussi, dans les chemins viscérales, apporter des améliorations. Et enfin, dernier exemple, dans la maladie de Chagas, qu'on n'a pas évoqué du tout, donc qui est une maladie très importante, maladie tropicale très importante en Amérique latine. Aujourd'hui, ils sont en train de développer une formulation pédiatrique de médicaments qui permettra de traiter les jeunes enfants qui sont les plus atteints de cette maladie-là. Donc là, une formulation et une amélioration très concrète pour une population cible.
Docteur Bernard Pécoul, docteur Jean Janin, merci. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, vous trouverez les coordonnées du DNDi sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique Priorité Santé. Et demain, nous parlerons des allergies. Pourquoi sont-elles en nette augmentation? Quel est l'impact de la pollution sur ces maladies? Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions, soit par email à priorité.santé@rfi.fr, soit par téléphone au 33 1 56 40 18 22. Françoise André a réalisé cette émission avec à la technique Thomas Ferrière. Au revoir à tous et à demain.